Nous sommes donc en compagnie de l'écrivain Gérard Farras à propos de la parution de son dernier ouvrage, Collection particulière, aux éditions Le Temps qu'il fait. Alors, la première question que j'ai envie de vous demander, Gérard Farras, est-ce que vous êtes un collectionneur né ?
Oh non, je ne suis pas vraiment un collectionneur, parce que j'entame des collections, je rassemble des choses, mais je ne vais jamais jusqu'au bout. Je collectionne les collections, peut-être, mais les collections inachevées. C'est trop triste d'achever une collection.
Bah, on ne peut pas, parce que ça ne s'achève qu'avec la vie. Voilà. Par contre, dans ce que vous collectionnez, c'est quoi, les timbres,
Il m'est arrivé de collectionner des cartes postales. Quand je travaillais sur le poète Jean Follin, je voulais savoir ce qu'il avait connu enfant, donc à Saint-Lô et à Canisy. Et comme Saint-Lô avait été détruit, je voulais retrouver le Saint-Lô des années 1910. Donc j'ai collectionné les cartes postales de Saint-Lô et des alentours. Mais c'est une petite collection, ça ne dépasse pas 40 cartes postales.
En tout cas, on retrouve l'idée de la carte postale et de la collection dans cette collection particulière. Mais finalement, un écrivain, ça collectionne les mots ?
Oui, enfin là, c'est une collection de textes. Ce sont des textes que j'ai choisis parmi beaucoup d'autres et que j'ai rassemblés. C'est une collection de textes, c'est aussi une collection de mots, parce que souvent les mots ou les noms, et même les noms propres, sont une source d'inspiration. Et donc, par exemple, je trouve étonnant que Eiffel ait créé la tour Eiffel, parce que le nom d'Eiffel, c'est quasiment l'anagramme de Elf. La légèreté, le côté aérien de la tour Eiffel, on le retrouve dans le nom d'Eiffel, donc ça, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Ou alors de découvrir, mais je vous laisse le soin d'aller chercher vous-même dans les dictionnaires l'étymologie du mot vanille.
Bon, alors on cherchera. En tout cas, c'est intéressant que vous parliez de la tour Eiffel, parce que j'avais une question là-dessus, mais j'allais vous demander pourquoi on retrouve quand même assez souvent la tour Eiffel, un petit peu dans ces recueils de lettres. Et voilà, bah, vous avez répondu finalement.
Oui, j'ai écrit autrefois un texte sur la tour Eiffel, lors du centenaire de la tour Eiffel, qui s'appelait « La tour Eiffel expliquée aux enfants ». Et qu'est-ce que je peux dire encore de la tour Eiffel ? Oui, je me suis rendu compte en écrivant ces textes, tous ces textes, que j'avais une sorte de prédilection pour l'imagination aérienne, que mon imagination était aérienne, que j'avais tendance à aimer écrire sur des choses qui s'envolent, sur les saints qui l'évitent, par exemple. Saint-Joseph de Cupertino qui, quand il est en oraison, monte au plafond immédiatement de l'église et perd sa sandale de paille qui tombe au milieu des chaises. Donc, ces choses-là me font rêver. Donc, voilà. Bon, l'intérêt d'écrire, c'est finalement de découvrir quel est son imaginaire, de le constituer, puis en même temps de découvrir qu'il y a des prédilections, qu'il y a une... Bachelard a écrit de très beaux livres. Moi, j'aime beaucoup les livres de Bachelard sur l'air et les songes, la terre et les rêveries de la volonté. Je crois qu'il y a une vérité dans ce que dit Bachelard. Il y a des sujets de prédilection, il y a des choses qui retentissent en vous plus que d'autres. Et l'intérêt, c'est d'explorer, de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi ces choses retentissent en vous.
Et puis finalement, quand on écrit, on vit plusieurs vies aussi.
Oui, mille et une vies. Mille et une vies. Oui, j'ai pas tellement le sentiment de vivre plusieurs vies. J'ai plutôt le sentiment de parce que j'évoque souvent des souvenirs d'enfance, de revivre mon enfance, pas de la revivre, mais d'être en communication avec elle assez facilement, comme si elle était vraiment là, toujours présente. Je crois que cette communication avec son enfant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les gens oublient qu'ils ont été des enfants.
Alors heureusement, il y a les écrivains pour nous le rappeler. Mmh. Alors vous parlez aussi beaucoup de peinture, et ce qui m'a frappé, c'est que vous arrivez même à nous la rendre palpable. Alors la peinture, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Oui, c'est pas seulement la peinture, je crois que c'est toutes les images. Donc il y a les cartes postales, il y a effectivement les tableaux, mais ça peut être aussi des photos de magazines. Je trouve d'abord que c'est un bon exercice de s'appliquer à essayer de d'écrire ces photos et ces images, ces tableaux, parce que c'est un exercice très très difficile. Hein. Vous vous rendez compte quand vous êtes devant une image que vous tentez de décrire que vous êtes dépourvu de vocabulaire. Vous devez faire des recherches incessantes pour trouver le mot juste. Donc c'est un bon exercice pour quelqu'un qui écrit. Et puis j'ai une prédilection dans ces images pour les images populaires, en fait, pour un type de culture qui n'est pas la culture noble, hein. Donc les cartes postales ridicules, par exemple, des années 50, qui montrent des couples enlacés, tendres baisers, etc., ou des choses de ce genre.
Oui, ça vous adorez.
Ça j'aime bien, oui, bon. C'est peut-être une perversion du goût. Hein. Bon.
Mais en tout cas, ça vous inspire.
J'aime finalement le mauvais goût.
Il n'y a pas de mauvais goût et de bon goût, il y a un goût, après, c'est le vôtre, bon.
Voilà.
Hein, on va pas en discuter, en tout cas. Que vous inspire cette phrase d'André-Pierre de Mandiargues, l'écrivain est une sorte de voyant émerveillé?
Ah ben j'approuve tout à fait, j'adhère tout à fait à cette formulation de Mandiargues qui est toujours un écrivain que j'ai beaucoup lu depuis longtemps, sur lequel j'ai travaillé aussi. Je crois que Mandiargues est un grand rêveur. Je crois que c'est André Breton qui disait de Max Ernst que Max Ernst était une tête magnifiquement hantée, et Mandiargues également est quelqu'un de magnifiquement hanté.
Alors si on est un voyant émerveillé quand on écrit, est-ce qu'on écrit pour survivre, pour s'enivrer ou pour laisser une trace?
Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est un mode de vie, c'est une façon d'installer entre soi et le réel une épaisseur d'imaginaire qui est absolument nécessaire pour rendre la vie supportable, comme le rêve dont il était question dans la chronique tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette chronique. Je crois que c'est une dimension absolument indispensable, et de plus en plus indispensable, parce qu'on est soumis à une oppression quand même constante d'un réel assez souvent désagréable, hein, social, politique, et ainsi de suite.
Donc l'écriture pour se sauver un petit peu.
C'est l'écriture pour se sauver, oui. J'avais pensé écrire un livre qui portait le titre « Issue de secours ».
Hein, c'est pas mal aussi, oui.
Voilà, c'est une issue de secours.
Mais peut-être que vous n'auriez pas mis les mêmes lettres que dans Collection particulière. Lire le livre d'un auteur, c'est converser avec quelqu'un qui pourrait être un ami?
Oui, ça dépend de...
Faut choisir ses amis.
Faut choisir ses amis, ça dépend. Oui. Mais j'ai plutôt tendance, à considérer que les auteurs que je lis sont des amis, ou les auteurs que je fréquente longuement, donc comme Ponge, comme Jacotet, comme Follin, comme beaucoup d'autres, ce sont des gens qui m'ont apporté beaucoup et continuent à m'apporter beaucoup. Donc voilà, ce sont des gens qui me donnent quelque chose. Donc ce sont des amis. Bon, quelqu'un qui vous fait un cadeau, vous ne pouvez quand même pas le considérer comme un ennemi.
Alors il ne reste plus qu'à souhaiter aux lecteurs de lire votre collection particulière et finalement de découvrir qu'ils ont un ami. puisque cette collection particulière, en tout cas, est un vrai régal de lecture. C'est paru aux éditions Le Temps qu'il fait, et on peut aussi citer de Gérard Farage, Jean Dubuffet, Paysages du Pas-de-Calais aux éditions Invénite, et Envoi et dédicace aux presses universitaires du Septentrion.